L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.
Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler de Iroulégui dans la tourmente révolutionnaire. Petit rappel, lorsque la Révolution française éclate, la religion catholique est religion du royaume. La monarchie est de droit divin. Les rapports entre l'Église et l'État sont réglés par le Concordat de Bologne qui a été signé en 1516 par François Ier et le pape Léon X. Le curé est un homme d'Église, mais il tient aussi ce qu'on peut appeler un registre d'état civil puisqu'il note les baptêmes, les mariages et les enterrements. Au point de vue administratif à Iroulégui, comme dans une bonne partie des Pyrénées, nous avons dit que c'est la maison qui est l'unité de gouvernement, les maisons étant regroupées en hameaux, puis les hameaux en vallées. C'est une démocratie réelle parce qu'une maison égale une voix. La Révolution arrive et va bouleverser toute cette vie religieuse et ce système administratif. Alors regardons d'abord le côté administratif. En décembre 1789, on institue les communes et les municipalités doivent être recrutées par élection. À Baïgorry et dans la vallée, cette loi n'est connue que 3 mois plus tard, en mars 1790. On devine la perplexité des jurats. Alors on hésite, on discute, on se retrouve, on change d'idée. Bon, finalement, en avril 1790, la vallée de Baïgorry est divisée en 7 communes, dont Iroulégui, à qui on a intégré Chorouette. Il faut maintenant élire les conseillers municipaux et le maire, on va appeler ça l'agent de la commune. Première élection à Iroulégui, le 30 avril 1790. La population est tellement désorientée pour ces élections qu'elle demande au curé, Arispe, de venir assister à la séance pour donner des conseils, pour aider. Eh bien, le curé Arispe est élu conseiller municipal. En 1792, encore une nouveauté de la Révolution, on retire la tenue du registre d'état civil au curé et on la confie aux municipalités. À Iroulégui, très sagement, on laisse cette tâche au curé parce qu'il sait écrire, et on lui laisse cette tâche pendant un moment, jusqu'à son départ en exil. Ensuite, cette tâche de registre d'état civil est confiée au curé d'Anox, celui qui dessert Iroulégui. Et ce brave curé d'Anox initie le maire d'Iroulégui, qui s'appelle Pierre Taupette. Alors, les registres d'état civil sont écrits tantôt par le curé, tantôt par le maire. Le curé écrit tranquillement « Un tel a été baptisé tel jour », tandis que Taupette écrit sagement « Un tel est né tel jour ». Ensuite, Taupette doit se débrouiller tout seul. Alors là, il patauge pas mal. Il mélange les jours et les mois de l'ancien et du nouveau calendrier révolutionnaire. Il confond l'an 2 et l'an 3 de la République. Il oublie de noter des actes. Et comme dans beaucoup de communes d'ailleurs, les oublis seront ensuite réparés grâce à la mémoire des villageois. On retrouvera les personnes qui sont nées, qui se sont mariées et qui sont décédées. La pagaille est telle qu'en 1795, pour la régler, on regroupe les maires, donc les agents, des petites municipalités en municipalités de canton. Et voilà qu'Iroulégui retrouve Baïgorry et l'ancienne organisation de la vallée. Au point de vue religieux, en novembre 1789, les propriétés de l'Église sont mises à la disposition de la nation. Avec une excellente raison, on vous prend tout ça, on va en tirer de l'argent et c'est nous qui allons nourrir les pauvres. L'argument était celui-là. En juillet 1790, La constitution civile du clergé supprime l'autorité du pape sur le clergé. La Révolution décide que les évêques et les curés seront désormais nommés par élection. Cette nomination dépendra d'une assemblée laïque. Et cette assemblée sera formée des habitants payant un impôt correspondant à 3 journées de travail, c'est-à-dire les plus riches, même s'ils ne sont pas chrétiens. En novembre 1790, les choses commencent à se durcir pour les prêtres. Il y a la loi du serment. C'est l'obligation pour les prêtres de prêter serment de fidélité et obéissance à la constitution civile du clergé. S'ils ne prêtent pas ce serment, ils sont déclarés réfractaires. Les réfractaires ne peuvent plus desservir de paroisse. Les réfractaires ne peuvent plus porter leur robe cléricale. À Irulegui, on laisse notre curé à Rispe tranquille. On lui donne 2 ans pour réfléchir. Mais en juillet 1792, l'été plutôt 1792, les choses vont empirer. D'abord, on va regrouper les petites paroisses. Et Irulegui va devenir la succursale d'Anaux. On supprime les prébendes, ces fermes dont les revenus servaient à faire dire des messes pour le repos du propriétaire de la ferme. Notre prébende Labari, à Irulegui, disparaît donc. En août 1794, c'est la loi de déportation pour les prêtres réfractaires. Le curé à Rispe doit choisir, c'est le serment ou la déportation ou peut-être même la guillotine. Donc, il choisit l'exil en septembre. Dès qu'il est parti, tous ses biens sont confisqués. À la même époque, on sait qu'un prêtre a été caché dans le foin de la maison Urrutibéer, ce qui montre un grand courage des habitants parce qu'ils risquaient aussi leur peau. Un vicaire du Arcise qui est originaire d'Irulegui, qui s'appelle Jean Ondicola, s'exile aussi à Roncevaux. Ses biens, évidemment, sont confisqués. Et lui va continuer de donner les sacrements à ceux qui viendront le trouver à Roncevaux. Sous le porche de notre ancienne église, on trouve la dalle funéraire de ce prêtre, dont l'inscription en basque lui rend hommage en disant qu'il mérite bien son ciel avec tout ce qu'il a fait. Et dans le diocèse, il sera déclaré confesseur de la foi. Notre vieille église Saint-Vincent est pillée en 1794 ou en 1795. Tout ce qui est objets qui contiennent de l'or ou de l'argent, c'est-à-dire les croix, les calices, les ciboires, les ostensoirs, les patènes, sont pris et envoyés à fondre à l'hôtel de la Monnaie à Paris. À Irulegui, on a pris 1 croix, 2 calices, 1 ciboire, 1 ostensoir, 2 patènes, tous ces objets qui avaient été achetés ou redorés après notre fameuse visite pastorale de 1703. On prend aussi les ornements, les linges, les livres, et tout ça est envoyé à Aissiritz pour être estimé et vendu. Et cela rapporte environ 1000 livres aux révolutionnaires. Et voilà. Pendant quelques années, le village va vivre K1KA. Le calendrier révolutionnaire ne sera jamais adopté. Ils resteront à l'ancien calendrier. Ils iront un petit peu chercher leur sacrement à Roncevaux. Le curé d'Anaux, qui dessert le village, va finalement démissionner 2 ans après. Et nos braves paroissiens vont rester là, tout seuls, jusqu'à la fin de la Révolution. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance. À bientôt.
L'histoire méconnue du village d'Irulegui, racontée par Dami Vigier.